Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Lambda Solène. Je me lance dans le podcast audio, c'est un tout nouveau domaine pour moi qui n'est pas facile et j'ai encore beaucoup à apprendre malgré maintenant une petite expérience avec un premier épisode qui avait été fait initialement en anglais. Donc n'hésitez pas à donner votre avis à la fin, après écoute, et toute critique constructive sera la bienvenue évidemment, parce que je veux faire quelque chose de bien qui plaise. J'ai fait un premier épisode en anglais, mais à l'avenir, je vais faire les épisodes en français, puis faire une traduction et plus ou moins faire de la lecture pour la version anglaise, parce que la version française, c'est plus ou moins l'improvisation avec quelques lignes pour garder le fil. Mais improviser en anglais, pour moi, j'ai vraiment pas le niveau, donc c'est pour ça. Il y en aura pour tout le monde, en français, en anglais. Et j'espère que pour au niveau du contenu, le fait de faire en français d'abord, ce sera bénéfique pour les deux versions, bien évidemment. Donc pour ce premier épisode, je vais parler de mon périple dans le monde open source au travers des éditeurs textes que j'ai pu utiliser. Donc tout ça commence sur Windows, il y a bien longtemps, au début des années 2000, dans ma campagne, où avec l'accès à Internet, j'ai découvert la programmation avec Python et PHP. Donc c'était il y a quand même une vingtaine d'années maintenant. Et je connaissais vraiment personne pour m'aider dans l'informatique. Je connaissais pas de développeur, personne travaillant dans l'informatique. J'ai tout dû apprendre par moi-même. Et c'était pas forcément toujours facile. Donc, on est au début des années 2000. Je veux faire du Python ou du PHP et je suis sous Windows. Qu'est-ce que j'ai ? Le bloc-notes. J'ai fait un peu de bloc-notes et franchement, c'était pas terrible. Parce qu'on sait pas les numéros de ligne. Il n'y a rien. Il n'y a rien, quoi. C'est vraiment que le texte, et encore, même pour le texte, c'est nul. Donc, bon, c'est un peu une blague à cette époque de dire « tu veux coder, tu prends le bloc-notes », mais c'est vraiment nul, quoi, je ne le recommande pas. J'ai découvert Cite, S-C-I-T-E, c'était un éditeur très basique, mais il y avait la coloration syntaxique PHP et Python, que je faisais à l'époque. Il affichait les numéros de ligne. On pouvait avoir des macros pour, par exemple, lancer l'interpréteur quand on appuie sur une touche F, quelque chose du clavier. Et rien que ça, par rapport à Bloc-Notes, c'était vraiment formidable. Je pouvais tester mon code, le lancer d'une touche. J'avais une petite console en bas du programme qui me disait à quel endroit il y a eu une erreur, par exemple. Et dans l'éditeur, je retrouvais tout de suite la ligne, parce que c'était affiché, tout simplement, quoi. C'est vraiment les trucs de base auxquels on s'attend à avoir maintenant. Mais à l'époque, on n'y connaît rien, on se rend pas compte à quel point il y a des choses de base qu'on devrait avoir. Quelques années plus tard, j'ai découvert Linux avec la distribution Slackware, donc c'était pas vraiment la plus facile. Ça m'a forcé à apprendre Vie et Vim. Alors, je vais prononcer Vie parce que en français, ça se lit Vie. Et au travail, je dis Vie, donc on va dire Vie. Donc j'utilisais Vie et Vim sans vraiment comprendre la distinction. J'ai appris les trucs de base rapidement sur comment on ouvre un fichier, comment on supprime une ligne, comment on ajoute du texte et comment on enregistre, quoi, les trucs vraiment de base. Ça me suffisait largement à l'époque. Je comprenais pas trop la distinction entre les deux, jusqu'à ce que j'utilise le système d'exploitation Solaris, et que quand je lance Vie et que j'utilise les touches fléchées, ça insère des caractères bizarres. Parce que chaque système a son implémentation de Vie, et dans Solaris, les touches fléchées, c'est pas censé exister, donc pour déplacer le curseur, c'était HJKL à l'ancienne. À partir de ce moment-là, j'ai compris que Vie et Vim, c'était bien deux programmes différents. Vie, c'est la version historique légère, et Vim, c'est la version avec artillerie lourde qui fait plein de trucs, et qui est du coup la même partout, puisque tout le monde installe normalement le même programme. Un peu plus tard, je suis arrivé à la fac, j'ai fait un IUT informatique où on apprenait à faire le métier de développeur. C'est pas ce que je voulais, mais il n'y avait pas de formation du tout pour faire d'admin système. Il y avait peut-être des formations pour du réseau, mais moi je voulais vraiment faire administration système. Donc bon, j'ai fait ça, parce que j'avais déjà pas mal de connaissances à cet instant T. Et bon, j'ai appris Java et C++ quand même dans la foulée. C'était pas ce qui m'intéressait le plus. Du coup, j'étais pas folle des éditeurs pour faire du code. Donc, je me suis retrouvé à utiliser NetBeans. À cette époque, j'étais sous Solaris ou OpenSolaris, je sais plus. Et NetBeans fonctionnait très bien puisque c'était un produit fait par Sun et c'était en Java. Le Java marchait exceptionnellement bien sur Solaris. NetBeans, c'est plus un environnement de développement qu'un éditeur de texte, parce qu'il peut générer tout un projet Java, lancer les compilations de Java. Il y a un éditeur d'interface graphique Java que j'ai abusé complètement parce que c'était génial et que ça marchait. À l'école, on demandait de faire un projet, de rendre quelque chose. Bon, bah avec NetBeans, c'était fait en 5 minutes. Il n'y avait vraiment pas besoin de s'embêter à faire tout ça à la main dans un éditeur de texte. Maintenant, si je devais utiliser NetBeans, ce serait certainement non, parce que c'est lourd. C'est très lourd, il y a plein de fonctions, je ne sais même pas à quoi ça pourrait servir. Mais en même temps, je ne fais pas de code, donc je ne suis pas bien placé pour parler de ça. Mais NetBeans, bon, ça marchait, ça faisait le boulot, c'était le principal. Quand je devais éditer des fichiers texte, je prenais gedit de Gnome. Il était tout simple, ça marchait bien. C'était un peu comme le bloc-notes de Windows, sauf que bah il faisait le minimum, quoi. Les lignes, la correction syntaxique, des sélections qui marchent. Et à la fac aussi, je devais faire beaucoup de présentations, donc j'utilisais LaTeX pour faire ça. Et comme j'ai toujours une très mauvaise mémoire, j'utilisais l'éditeur Kyle, qui est un éditeur graphique qui permet de faire un peu le rendu et aussi donner des aides pour écrire le LaTeX. Donc ça peut générer automatiquement des tableaux, lui dire d'ajouter une colonne, il rajoute tout le bazar qu'il faut pour que le tableau ait une colonne en plus. À cette époque, mon rêve, c'était de devenir admin système Solaris. Ou OpenSolaris, n'importe, les deux m'allaient. Je sais plus pourquoi j'en suis arrivé là, mais c'était vraiment mon rêve. Juste avant la fin de mon cursus, Sun s'est fait racheter, OpenSolaris est mort, du coup je me suis tourné vers FreeBSD, et c'est là que j'ai vraiment quasiment tout appris, ce que je sais maintenant, et où j'ai commencé à utiliser beaucoup, beaucoup plus tout ce qui est en ligne de commande et en console. Donc après la fac, je suis arrivé au travail, donc j'étais admin système Linux plus ou moins quand je suis arrivé, parce que toutes les machines étaient sous Linux. Donc après, un an peut-être, on a tout passé sous FreeBSD. Et quand je suis arrivé, la méthode d'administration, c'était de faire des SSH sur les machines distantes, lancer Vim et faire les modifications. Donc ça m'allait très bien, puisque je savais utiliser Vim. Il n'y avait pas de souci, puis du coup, ça ne demandait pas des modifications très très compliquées. Malgré tout, depuis longtemps, il y a un programme que je voulais essayer, qui s'appelle Emacs. Mais à chaque fois que j'en entendais parler, c'était plus ou moins en mal, parce qu'il y avait 40 millions de raccourcis à souvenir, qu'il faut être un poulpe pour l'utiliser sur son clavier. Et finalement, ça m'avait rebuté, et je ne l'avais jamais utilisé. Premier été au travail, c'était très très calme, et je me suis dit, cette semaine... j'apprends Emacs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les alias Vi et Vim dans mon shell. J'ai mis Emacs à la place. J'ai installé Emacs. J'ai commencé un petit bout de papier à côté de moi, et dès que j'apprenais des nouveaux raccourcis dans Emacs, je les notais. Parce que la première fois que j'ai lancé Emacs, c'est je lance, et je sais pas comment on ouvre un fichier. Donc j'ai cherché comment on ouvre un fichier, puis j'ai noté, donc c'était CTRL-X, CTRL-O, CTRL-X, CTRL-O, je sais plus. Il y a mes mains qui le savent, mais dans ma tête, je sais plus. Après, j'ai appris à ouvrir un fichier, fermer un fichier, copier-coller du texte, couper, déplacer, faire des macros. Finalement, en une semaine, j'étais pas une pro d'Emacs, mais je savais faire beaucoup plus dans Emacs que ce que je savais faire dans Vim après 10 ans à l'utiliser de temps en temps. Donc si vous voulez apprendre un nouveau programme, je vous conseille de faire comme ça, ça marche plutôt bien. À ce moment-là, j'ai commencé à m'en servir de plus en plus, pour tout et n'importe quoi. Pour lire mes mails, envoyer mes mails. Je dirais presque que c'est le meilleur client mail que j'ai utilisé avec MU4E. Je m'en suis servi pour aller sur IRC, pour jouer aux échecs, pour prendre mes notes et m'organiser avec le mode OrgMod. OrgMod a vraiment changé ma vie. C'est un mode d'Emacs qui permet de s'organiser, gérer un agenda, gérer une to-do list, gérer le temps passé, gérer la prise de notes, tout en texte, et ça permet de même faire du tableur ou des tas de trucs comme ça. Et ça m'a radicalement changé la vie au travail, parce que j'étais désorganisé au début, et en utilisant OrgMod, j'ai commencé à tout noter, à bien garder les informations qu'on me donnait, à savoir ce qui avait été fait, ce qui n'avait pas fait, ce qui avait été mis à jour quand on me demandait quelque chose. Du coup, pour moi, ça a transformé ma vie, littéralement. Alors, c'est resté comme ça plusieurs années. Et petit à petit, j'ai essayé de ne plus utiliser Emacs parce que je me suis dit que J'étais devenue dépendante d'IMAX dans une certaine façon. En plus, niveau sécurité, c'était pas terrible parce qu'on a tout qui se passe dans le même éditeur. Faut vraiment voir IMAX comme une sorte de machine virtuelle Java où on lance des programmes dedans. Sauf qu'on lance une machine virtuelle et on fait tout tourner à l'intérieur. Du coup, il y a une bonne intégration entre les programmes. Mais s'il y a un programme qui est compromis, ça compromet absolument tout. D'ailleurs, j'ai oublié de parler d'une fonctionnalité d'IMAX qui est vraiment géniale, qui est Tramp, et qui permet d'éditer des fichiers sur des serveurs distants par SSH. Donc ça, pour administrer des machines, c'était vraiment génial, parce qu'on, depuis notre éditeur super bien customisé, pas besoin d'éditeur sur la machine distante, on l'ouvre en SSH, on se balade dessus, on ouvre le fichier, on modifie, ça enregistre et ça l'envoie directement, et on ne sait même pas qu'on est sur une autre machine, quoi. Ça, c'était vraiment un mode génial pour l'administration. Pour les personnes qui voudraient un éditeur texte qui ressemble à IMAX, mais sans avoir tout IMAX, il faut savoir qu'il y a JED, J-E-D, et ZIL, Z-I-L-E, qui sont des éditeurs texte qui fonctionnent sur le même principe qu'IMAX, avec quasiment les mêmes raccourcis, mais qui ne vont pas avoir toutes les fonctionnalités. Donc c'est quasiment la version d'éditeur texte d'IMAX, mais sans tout le bazar qui va avec. Donc si vous aimez juste l'éditeur, franchement c'est une bonne solution. Alors je vais ouvrir une petite parenthèse pour l'éditeur Ed, qui est l'éditeur historique d'Unix, parce que il est intéressant. Je dirais pas qu'on peut l'utiliser pour tout, parce qu'il est vieux, il a des limitations, mais en l'utilisant on peut se rendre compte de certaines choses, de comment c'était avant, se rendre compte que Vue, finalement, c'est un peu une interface graphique pour Edge, parce que dans Vue, on va se déplacer sur des lignes, on va les sélectionner, puis on va en dire supprimer. Dans Edge, on va donner les numéros de lignes pour faire la plage, et on va dire supprime. Voilà, après, par exemple, si on veut travailler sur des lignes, des fois, pour du texte avec Edge, c'est très compliqué, parce qu'on fait tout avec des regex, et bon, c'est pas très pratique, et maintenant, on a des choses beaucoup mieux. Mais il y a une utilisation de head qui est quand même intéressante, c'est pour l'utiliser en script en lui envoyant les commandes en entrée standard. Donc ça peut être tout simplement, ouvre ce fichier, va à telle ligne, et la ligne avant, tu ajoutes ce texte-là, tu enregistres, tu sauvegardes, tu quittes. Donc ça, je m'en sers dans mes scripts parce que c'est beaucoup plus simple que de faire une ligne sed extrêmement compliquée. Donc maintenant que j'utilise plus IMAX, j'utilisais Vim ou NeoVim. Récemment, j'ai découvert totalement par hasard l'éditeur Cocoon. Il reprend le fonctionnement de Vue dans le sens où il y a un mode insertion et un mode avec des commandes. Il reprend aussi quelques raccourcis clavier bien connus parce que de toute façon, il fallait des raccourcis, alors autant prendre des choses partagées par la plupart des utilisateurs réguliers de Vue ou Vim ou NeoVim ou tout qui ressemble à ça. La grosse différence, c'est que Cocoon est orienté sélection. C'est-à-dire que dans Cocoon, si on veut supprimer un mot, par exemple, on va utiliser la touche W pour mettre en sélection un mot. On peut appuyer deux fois sur W pour en prendre deux, ou trois, ou quatre. Et après, on utilise la touche D pour supprimer. Alors que Vue, lui, on va utiliser la touche D pour delete. Et après, on va utiliser la touche W pour supprimer. C'est un peu vu à l'opposé. Ça plaît ou ça plaît pas. Ce qui est bien, c'est que ça fait un éditeur qui ressemble beaucoup à quelque chose que tout le monde connaît déjà, mais qui fonctionne un peu différemment. Comme Cocoon repart quasiment de zéro, ils n'avaient pas de choses historiques à garder, donc ils sont repartis sur des bases propres. Il y a pas mal de plugins qui existent. La plupart des raccourcis sont dans une certaine logique qui se tient bien, alors que dans Vim, il y a des trucs, c'est des fois complètement illogique. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille de visiter le site cocoon.org. Le programme est très léger, il s'installe vraiment facile. Question des utilisateurs. Paul Gatling me pose, selon toi, quel devrait être le rôle de l'informatique dans la vie de tous les jours? Alors, bon, c'est un sujet vaste, mais mon avis personnel, c'est qu'on utilise l'informatique pour tout et n'importe quoi. C'est exactement comme dans Harry Potter, où ils utilisent la magie pour tout et n'importe quoi, et puis finalement, ils se rendent compte que si on veut mettre la table, prendre les fourchettes et les mettre sur la table, c'est peut-être pas plus compliqué au final. Donc, bah nous, c'est la même chose. On utilise l'informatique pour tout, n'importe quoi. Le papier, ça marche très bien, ça tombe pas en panne, ça demande pas de batterie. Je pense que quelque chose de très important, ce serait d'éduquer les gens sur comment fonctionne un ordinateur. Pas besoin d'aller loin, mais juste expliquer les bases, ce que c'est que le système d'exploitation, le matériel, rapidement le matériel qu'il y a dedans, à quoi ça sert. Pour les plus jeunes, je sais pas si c'est actuel, parce que je suis pas au collège ou au lycée depuis bien longtemps maintenant, mais des cours de programmation assez basiques, juste pour qu'il y ait des notions d'algorithmie et que les gens comprennent que ça marche avec des algorithmes et qu'il faut y réfléchir. Malheureusement, je pense que les plus jeunes qui vont être gavés de smartphones et de tablettes, où c'est des plateformes où on ne peut que consommer des choses et pas beaucoup créer. Il y a quelque chose de très important pour l'informatique de la vie de tous les jours, c'est l'accès au logiciel libre. C'est très important qu'on puisse avoir accès au logiciel et au code source, parce que ça permet d'adapter le code source. Ça permet de maintenir le code pour qu'il fonctionne sur du vieux matériel, par exemple. Je pense à quelqu'un qui aurait une vieille machine, genre un Pentium 4, qui n'est pas en 64 bits. Si cette personne veut utiliser Windows, l'installeur ne va pas marcher parce que Windows 10 ne fonctionne pas en 32 bits. Donc si cette personne installe Linux ou OpenBSD, par exemple, elle aura des mises à jour de sécurité, elle aura le dernier Firefox qui fonctionne, et surtout, elle n'aura pas besoin de remplacer son ordinateur obsolète, puisque finalement, bah, si ça marche, il n'y a pas besoin de remplacer. C'est un peu comme si on achetait un vélo, mais qu'au final, tout le matériel était cloué avec des rivets. On ne peut pas le démonter, à moins de demander au constructeur. Et si le constructeur dit « Non, désolé, je touche plus à ce genre de vélo, c'est trop vieux », bah, on se retrouve avec un vélo qui ne sert plus à rien. Bah, ça serait pareil avec les ordinateurs si on n'avait pas de logiciel libre pour les adapter. De même que pour les logiciels aussi. Si on utilise un logiciel qu'on aime bien et qu'il ne fonctionne pas parce que diverses raisons, on peut toujours le corriger si on a les connaissances ou trouver quelqu'un qui aurait les connaissances pour le corriger. Alors, une autre question de Setchou. Comment es-tu devenu développeur OpenBSD et qu'est-ce qui t'y attire ? Alors, j'étais sûr que cette question viendrait, je n'étais pas sûr que ça viendrait aussi vite, mais je devais y répondre. Donc, la version courte. Au travail, j'ai remplacé mon PC portable qui était sous FreeBSD à l'époque par OpenBSD. J'ai eu de la chance parce que mon matériel était pleinement compatible. Donc, tout fonctionnait du premier coup, comme d'habitude. Et au fur et à mesure que j'utilisais, j'ai envoyé des diffs aux autres pour améliorer mes outils parce que, par exemple, il y avait de nouvelles versions qui étaient sorties et qui n'étaient pas disponibles pour tout le monde. Donc, un diff, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on prend le code utilisé pour compiler les programmes, on le modifie chez nous, on apporte des changements. Donc des fois, ça peut être juste changer le numéro de la version du programme et puis le checksum du fichier qu'on télécharge. Ça, c'est le minimum nécessaire pour faire une mise à jour. On génère un diff qui transforme, c'est un fichier qui va transformer l'ancienne version en la nouvelle version pour la mise à jour. On envoie ce fichier sur une mailing list OpenBSD où il y a des gens qui récupèrent. Si quelqu'un est motivé, il prend mon diff, il le teste sur son ordinateur, et ensuite, si c'est quelqu'un qui est développeur OpenBSD, cette personne peut le commit dans le gestionnaire de version d'OpenBSD, et après, tout le monde aura accès à cette mise à jour. Donc le processus de participation est vraiment simple. On génère des diffs chez soi, on les envoie par mail. Après, je ne sais pas combien de temps, peut-être un an et quelques, après avoir commencé à participer, il y a eu un hackathon à côté de chez moi, donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été invité, et au bout de quelques jours, on m'a demandé si je voulais rejoindre l'équipe OpenBSD. J'ai dit oui, donc j'étais très contente. Un hackathon, c'est des événements organisés par OpenBSD. Le terme a été repris par d'autres pour d'autres choses. Mais chez OpenBSD, le but, c'est de regrouper des développeurs au même endroit et que ces personnes puissent travailler ensemble sur des projets, échanger plus rapidement et aussi de pouvoir travailler très vite. C'est-à-dire qu'on peut mettre à jour des choses qui risquent de casser, c'est détecté très rapidement par quelqu'un qui est dans la salle, c'est corrigé tout de suite. Il y a beaucoup moins de temps de latence dans les échanges. Donc c'était une expérience assez intéressante, puisqu'il y avait des gens du monde entier qui étaient venus là. On était, je ne sais pas, peut-être une vingtaine. Et j'ai appris énormément de choses juste en une semaine. Alors, en tant que développeur, je suis pas très active, je fais principalement des mises à jour sur des jeux vidéo ou de la documentation, rien de très critique. Par contre, je suis assez content parce que j'ai pu mettre en place une infrastructure pour préparer les mises à jour de sécurité, des packages, et pour que les personnes avec la version stable puissent avoir des mises à jour de sécurité. J'ai entendu beaucoup trop de fois des gens qui se plaignaient qu'OpenBSD se disait un système d'exploitation très sécurisé et qu'au final, quand on installait ces programmes sur une version stable, on n'avait pas de mise à jour pendant 6 mois, à moins de se les installer à la main, mais c'est un processus relativement compliqué. Donc, j'ai pu apporter ça, je suis très contente, ça sert tous les jours à plein de monde, et ça donne vraiment un sens au temps que j'investis au niveau d'OpenBSD, ça fait vraiment très plaisir. Donc c'est fini pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse patienter jusqu'au prochain épisode. Je vais préparer un site internet avec un flux RSS pour les lecteurs de podcasts. Comme ça sera plus facile, vous recevrez directement les épisodes sur votre agrégateur RSS si vous en avez. Et ce sera beaucoup plus pratique pour tout le monde. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie sincèrement de votre écoute.